Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, un chez-soi pour la vie, vers des environnements plus inclusifs et désenclavés, mais surtout décontaminer l'Est de Montréal. Bonne écoute.
Un chez-soi pour la vie, un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mai 2023 dans la presse. En 2018, la Fondation Véro et Louis, fondée par Louis Morissette et Véronique Cloutier, a fait appel à une équipe de chercheurs pour réaliser un projet répertoriant les meilleures pratiques dans le monde en matière d'habitation pour personnes autistes. Le résultat est un modèle unique d'hébergement à long terme qui s'apprécie dans toutes les stratégies subtilement mises en place pour ses colocataires aux besoins particuliers. On était devant un cas où on partait de rien. Au Québec, les bâtiments conçus spécifiquement pour les personnes autistes sont souvent transitoires. Dans ce cas-ci, l'idée était de concevoir une maison à long terme où l'on puisse vieillir en se sentant chez soi, explique Cathy Taillon, directrice de la maison Véro et Louis. Les solutions proposées par l'équipe de recherche, qui ont ensuite fait l'objet de discussions avec les proches de personnes autistes, ont permis aux architectes d'Atelier TAG de créer un lieu sur mesure pour les futurs résidents. L'immeuble n'offre rien de spectaculaire au premier abord. À l'intérieur, il regorge toutefois d'idées qui peuvent passer inaperçues aux yeux du visiteur. Dans une pièce, un groupe vaque à ses activités. Geneviève déchire du papier pour canaliser son surplus d'émotions. Christian et Alexandre s'affairent à monter des casse-têtes et des Legos comme ils le font chaque jour à 7 heures. Un peu plus loin dans la salle d'apaisement, Alexandra se fait masser, le regard perdu dans le paysage que de grandes fenêtres lui permettent de contempler. D'autres font la sieste ou se détendent en silence dans la pièce voisine. Ils sont ensemble, séparément. Quand on parle du spectre de l'autisme, ça implique une diversité de besoins et de réactions. Certains sont très sensibles aux stimulations, alors que d'autres en ont besoin, nous explique Virginie Lassalle, responsable du DESS en design d'intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal. Le décor doit être pensé avec finesse, souligne Virginie Lassalle de l'École de design de l'Université de Montréal, qui a été sollicitée pour le projet de recherche. L'idée n'est pas de limiter l'aménagement, mais d'offrir des choix qui peuvent être modulés en fonction des besoins. Ainsi, les accessoires peuvent être déplacés et rangés selon les besoins. Le décor, lui, est polyvalent. À l'étage, 4 maisonnées regroupent chacune 4 chambres autour d'un salon commun surmonté d'un puits de lumière. L'éclairage obtenu est naturel, jamais agressant. Justin, 25 ans, nous montre sa chambre où c'est Noël toute l'année. Il ne s'est pas encore fait d'amis depuis son arrivée il y a 1 an. Il préfère y passer du temps seul ou avec les intervenants. Ses couvertures sont douces et l'éclairage aussi, dit-il. Pas comme les portes du placard en bois, qui, elles, sont rugueuses. Dans le cocon de Justin, la température demeure fraîche en tout temps. Certains résidents aiment être dans un environnement très froid. Pour d'autres, c'est l'inverse, relève Sarah Oxley, qui est responsable de la recherche pour la Fondation Véro et Louis. Chaque chambre est dotée de sa propre unité murale qui permet d'adapter la climatisation et le chauffage au goût de chacun. Justin nous fait visiter la salle de bain partagée, là où le savon sent vraiment bon. Il utilise le miroir pour se raser et le referme ensuite, car certains résidents sont déstabilisés en voyant leur reflet dans la glace. Pour encourager l'autonomie des uns tout en ménageant les sensibilités des autres, les concepteurs ont trouvé cette solution hybride. « La buanderie aussi sent bon », fait encore remarquer Justin. C'est là qu'il fait fièrement son lavage. Cette pièce est étonnamment l'une des préférées des résidents, nous informe Virginie Lassalle, probablement parce que ce sont des lieux auxquels ils n'avaient pas accès avant. Ils sont impliqués dans des activités du quotidien et c'est valorisant pour eux. Un autre résident nous attrape dans la maisonnée voisine. Alexandre passe l'essentiel de son temps devant son ordinateur ou à faire des dessins. Il nous ouvre la porte de sa chambre qu'il aime impeccablement rangée. Cet après-midi, il classe ses dessins et le contenu de son placard. Tout doit retourner à sa place derrière les portes, sinon je n'arrive pas à me retrouver. Créer l'apaisement. Les résidents sont ici pour du long terme. Le décor doit donc s'adapter à une clientèle vieillissante. L'escalier qui conduit au rez-de-chaussée est recouvert de tapis qui absorbent le son et amortit les chutes fréquentes. Un espace a été prévu pour accueillir éventuellement un ascenseur. Il y a tout un langage architectural qui contribue à donner l'impression d'intimité et de chaleur à un lieu. Ici, on a voulu éviter l'effet corridor qui rappelle les milieux institutionnels ou les CHSLD, fait remarquer Virginie Lassalle. Le passage est toujours ouvert d'un côté et fait un crochet plutôt qu'une ligne droite. Partout dans la résidence, les matériaux tiennent compte des réverbérations. Le bruit est atténué, la lumière est diffuse et peut être modulée par des gradateurs. Côté couleur, des insertions de bois brisent la froideur du blanc tout en absorbant le son. Une attention particulière a aussi été accordée aux textures. Le plancher est doux pour les pieds, aucune surface n'est réfléchissante. Les comptoirs d'acier inoxydable ont d'ailleurs été brossés pour ne pas déstabiliser l'utilisateur. Le bâtiment ne présente aucune ouverture côté rue, mis à part la porte d'entrée. Cette configuration permet d'isoler les espaces communs du brouhaha extérieur. Les grandes fenêtres sont plutôt réservées aux aires communes et donnent sur un paysage verdoyant où un circuit de course a été aménagé. Plusieurs l'utilisent comme moyen d'apaisement, que ce soit à pied ou à vélo. C'est une décharge motrice apaisante. C'est impressionnant de voir le nombre de tours qu'ils peuvent faire, note Sarah Oxley. À l'extérieur, les résidents peuvent se retrouver au potager, à la cuisine, au spa ou dans les balançoires communes, où les chaises sont mises en mouvement indépendamment. L'interaction et la proximité d'autrui sont des défis auxquels les personnes autistes font face. Le choix de socialiser ou non leur est offert dans chaque espace. Les architectes ont d'ailleurs eu l'idée de concevoir deux salles à manger aux ambiances différentes. L'une est retirée et offre un environnement apaisant. L'autre, située du côté de la circulation, permet de suivre l'activité de la maison. L'ambiance est tranquille en cet après-midi de printemps à la maison Véro et Louis. Ce serait une erreur de penser que c'est habituel, nuance Cathy Taillon. Ici, tout est fait pour favoriser la zénitude, mais on ne sait jamais de quoi nos journées seront faites. La Fondation en bref. La Fondation Véro et Louis s'est donné la mission de créer des milieux de vie permanents adaptés aux autistes de plus de 20 ans. La maison de Varennes est sa première réalisation et accueille 16 adultes avec ou sans déficience intellectuelle, dans un environnement réfléchi pour leurs besoins. Les résidents y sont entourés d'une équipe d'intervenants 24/7 dans un ratio de 1:4 dans le but de développer leur potentiel, d'encourager leur autonomie et de favoriser leur intégration sociale. En 2018, la Fondation Véro et Louis présentait les plans de ce nouveau concept d'hébergement et accueillait ses premiers résidents 3 ans plus tard. Deux nouveaux projets verront éventuellement le jour dans le centre du Québec et dans les Laurentides. C'était « Un chez-soi pour la vie », un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mai 2023 dans la presse.
Vers des environnements plus inclusifs, un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mai 2023 dans la presse. le mouvement pour la diversité sensorielle s'étend depuis peu à l'architecture et au design. Une question se pose: comment construire des environnements qui répondent aux besoins de tous, y compris les personnes neuroatypiques? Question courte, réponse complexe. Le milieu cogite pour trouver des pistes de solutions qui, à défaut d'éliminer toutes les sources d'irritation, tendent vers la création d'aménagements plus sensibles au bien-être de chacun. Si on vous proposait de vivre dans un château d'Écosse, vous le trouveriez possiblement trop sombre, trop grand, trop humide. Pour bien des gens, l'environnement bâti est ressenti comme un château d'Écosse. Avec le vieillissement de la population, la question prendra de plus en plus d'importance, signale Jean-Pierre Chupin, théoricien de l'architecture. À notre époque, les discussions entourant l'accessibilité universelle ne peuvent plus se résumer aux enjeux de mobilité réduite. Elles doivent s'étendre aux limitations neurologiques. Un nouveau mot fait son apparition dans le vocabulaire du design, la neuroarchitecture. Le concept, apparu récemment, invite à créer des lieux qui tiennent compte des réactions intuitives à l'environnement, explique Virginie Lassalle, professeure adjointe à l'École de design de l'Université de Montréal. Dit comme ça, c'est de la bonne architecture comme on en fait depuis toujours. Mais ce qui diffère maintenant, c'est qu'on essaie de mieux comprendre ces réactions à partir de données empruntées à d'autres disciplines comme la psychologie ou les neurosciences. Or, les avancées dans ces domaines mènent à un constat: nos bâtiments paraissent hostiles à une bonne partie de la population. Les personnes neuroatypiques, un groupe qui englobe les troubles du spectre de l'autisme, ceux de l'attention, de l'anxiété, de la dépression ou de la dégénérescence cognitive comme l'Alzheimer, ne parviennent pas à s'adapter à leur environnement comme peuvent le faire les personnes dites neurotypiques. Pour leur bien-être, c'est donc l'environnement qui doit s'ajuster à leurs besoins. On s'entend que la problématique est vaste, souligne la chercheuse. Le bruit, la lumière, la surcharge d'informations, les difficultés de repérage dans l'espace ou les interactions avec l'autre sont autant de sources d'irritation plus ou moins grandes pour les personnes qui ont des fragilités neurologiques. Si on veut que tout le monde participe à la société, il faudra être en mesure de revoir les environnements partagés pour mieux les accueillir. Repenser nos espaces communs sous l'angle de la neuroarchitecture ne profite pas uniquement aux personnes qui ont des limitations, mais à tout le monde, soutient Virginie Lassalle. Tenir compte des limitations invisibles. Un partenariat de recherche impliquant 14 universités au Canada, 70 chercheurs et 68 organisations citoyennes et municipales, travaille actuellement à redéfinir la qualité de l'environnement bâti et les démarches participatives. Aussi prometteuse que puisse être l'idée d'une architecture inclusive, elle se complique dans la pratique quand les besoins des uns s'opposent à ceux des autres, observe Jean-Pierre Chupin, directeur d'une chaire de recherche du Canada en architecture à l'Université de Montréal. Certains peuvent avoir besoin d'espaces très protecteurs et tamisés, tandis que d'autres apprécient l'espace et la lumière, donne-t-il en exemple. Il y a une certaine complexité à considérer dans quel contexte il faut favoriser certains besoins plutôt que d'autres. On ne peut pas appliquer les recettes habituelles de conception. Ça suppose de changer son regard sur l'usager et, à ce jour, l'usager est encore perçu comme étant dans la norme. Bien sûr, les architectes et designers travaille en collaboration avec d'autres disciplines quand il est question d'espaces réservés aux personnes atteintes de troubles neurologiques. Ce n'est pas le cas pour la conception de lieux qui s'adresse à tous, relève Jean-Pierre Chupin, sans toutefois lancer la pierre aux architectes. On est coupable d'ignorance parce que nos formations nous ont mal préparés à tenir compte des limitations invisibles. Avant, on disait « Pourquoi s'y intéresser puisque ça touche très peu de gens ?» On sait maintenant que ça implique une grande partie de la population et que ça s'étend de la petite enfance jusqu'au plus vieil âge. Du coup, ça réveille tout le monde. Redéfinir l'usager. Au Québec, Société Logique travaille pour le développement d'environnements universellement accessibles et inclusifs. Il y a deux défis à relever pour y arriver, pointe l'architecte Isabelle Cardinal, qui dirige les services de consultation de cet organisme à but non lucratif. D'abord, nos villes et villages sont déjà construits. On doit aussi considérer le fait que ça ne fait pas partie des exigences minimales de construction. D'ici 2040, le Canada vise à atteindre l'accessibilité universelle en éliminant les obstacles pour les personnes en situation de handicap. Les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite restent encore à définir. Alors imaginez ce qui en est des considérations neurologiques. Lorsque Société Logique approche un gestionnaire d'immeuble en lui demandant de considérer les besoins de personnes TDA ou autistes, elle est perçue comme étant extrémiste. Note Madame Cardinal en majorant ses propos d'une note positive. On est loin d'avoir un Québec inclusif sur ce plan, mais je sens qu'il y a quand même une mouvance depuis quelques années. Le changement passera par l'éducation d'une nouvelle génération de concepteurs, de décideurs et de la population, dit-elle. Par un changement de mentalité, ajoute Jean-Pierre Chupin. Il faudra peut-être s'attendre à payer un peu plus cher pour atteindre une véritable accessibilité universelle, mais des calculs récents indiquent que ce n'est pas le cas si c'est bien pensé dès le départ. Le plus grand défi sera probablement de transformer les bâtiments existants. Il serait illusoire de penser qu'on arrivera à créer des lieux parfaits qui vont convenir à tout le monde, mais si c'est moins mauvais, ce serait déjà très bien. C'était « Vers des environnements plus inclusifs », un texte d'Isabelle Morin, paru le 27 mai 2023 dans la presse.
Désenclaver, mais surtout décontaminer l'Est de Montréal. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 24 mai 2023 dans La Presse. Zone industrielle négligée et défavorisée, l'Est de Montréal cherche désespérément à revitaliser sa base économique qui a subi une constante érosion depuis les 40 dernières années. Cette partie stratégique de l'île de Montréal, qui souffre de sous-investissements chroniques et qui porte un lourd passé environnemental, pourrait toutefois redevenir un pôle industriel stratégique d'importance pour le Québec, si on le désenclave et surtout si on le décontamine. une cinquantaine de personnalités du monde économique, social, culturel et environnemental ont pris publiquement position mardi pour que l'Est de Montréal soit relié le plus rapidement possible au centre-ville et au reste du réseau montréalais par des infrastructures de transport en commun adéquates. Le développement de nouveaux tronçons du réseau express métropolitain, REM, dans l'est de la ville, et la construction de 5 nouvelles stations de métro sur la ligne bleue pour se rendre jusqu'à l'autoroute 25 permettront de désenclaver cette portion importante du territoire montréalais et de contribuer à sa revitalisation. Le prolongement d'infrastructures de transport en commun favorisera certes un meilleur développement immobilier, puisqu'on cherchera toujours à densifier l'espace constructible autour des nouvelles stations de métro ou du REM, mais la décontamination de nombreux sites industriels m'apparaît tout aussi prioritaire. L'Est de Montréal a été l'un des plus importants complexes industriels du 20e siècle. C'est là que se sont installés de grands groupes comme la Canadian Vickers, qui construisait dans les années 1940 des aéronefs et des navires. En 1988, l'entreprise a mis fin aux activités de son chantier naval. À partir de 1912, la Canadian Steel Foundries y a exploité une usine de pièces coulées en acier destinée au secteur de l'énergie. Son usine a fermé en 2002. Le CP a déjà compté plus de 12 000 employés qui étaient affairés à transformer le minerai de fer en locomotive à son complexe Angus de l'Est de Montréal. C'est aussi dans l'Est de Montréal que se sont implantées les grandes sociétés pétrolières et pétrochimiques pour y transformer le pétrole brut en de multiples produits dérivés. Depuis le début des années 1980 et la rationalisation des activités de raffinage qui se sont concentrées dans de plus grandes installations, l'Est de Montréal a successivement assisté à la fermeture des raffineries BP, Esso, Gulf et Texaco. En 2010, c'était au tour de Shell d'annoncer la fin des activités de sa raffinerie. Décontaminés, ils construiront. La fin de ces activités industrielles, qui s'est accélérée au cours des 40 dernières années, a non seulement marqué le déclin économique de l'Est, mais elle s'est aussi soldée par le legs tout à fait indésirable d'une quantité industrielle de terrains contaminés. C'est une superficie de plus de 90 millions de pieds carrés de terrains qui sont disponibles dans l'Est de Montréal, dont 48 millions dans le seul secteur industriel de Pointe-de-l'Île. Mais on estime à 40 millions de pieds carrés les terrains qu'il faut décontaminer, me rappelle Jean-Denis Charest, président de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. On a longtemps sous-financé l'Est de Montréal et on se retrouve aujourd'hui avec des passifs environnementaux qu'il faut revitaliser. C'est une occasion de relancer les activités industrielles dans tout l'Est de Montréal. Il y aurait près de 7 millions de pieds carrés à développer, tout juste à proximité du port de Montréal, constate le PDG de la Chambre de commerce. Une étude récente de la communauté métropolitaine de Montréal signalait justement que la région souffrait d'une pénurie de terrains industriels à développer et son économiste en chef, Sylvain Giguère, pointait justement l'Est de Montréal comme le grand potentiel de développement dans la grande région montréalaise. Il faut être plus entrepreneurial dans notre approche. L'Est a été longtemps victime de scepticisme et de pessimisme. On veut changer cet état d'esprit, souligne Jean-Denis Charest. Le problème, c'est que les propriétaires de terrains contaminés dans l'Est de la ville ne montrent aucun empressement à aller de l'avant, et ce, même si Québec a débloqué, il y a 4 ans, 100 millions à la ville de Montréal pour financer jusqu'à 90 % des travaux de décontamination. À ce jour, seulement 13 millions ont été déboursés par la ville et le programme doit se terminer d'ici la fin de l'année. À Montréal, on affirme que plus de 40 millions devraient être déboursés prochainement et on souhaite qu'une nouvelle tranche de 100 millions soit accordée pour poursuivre la démarche l'an prochain. Chose certaine, l'Est de Montréal est bien positionné pour redevenir un axe industriel majeur puisqu'il est situé stratégiquement à proximité du port de Montréal et qu'il profite de nombreuses voies ferrées sur son territoire. Desservi par deux autoroutes importantes, la 40 et la 25, qui vont redevenir pleinement opérationnelles avec le parachèvement des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, l'est de Montréal est mûr pour une cure de jouvence, comme l'a été le corridor industriel du canal de la Chine dans les 30 dernières années. Il n'y a aucune raison pour que l'est de Montréal n'atteigne pas le niveau de développement que l'on observe dans l'ouest de la ville, où le tissu industriel s'est fortement diversifié là aussi, et ce, même si les infrastructures de transport en commun n'étaient pas optimales. Mais pour y arriver, les travaux de décontamination doivent s'intensifier et s'accélérer de façon importante. Avant tout, parce que personne, pas même une entreprise, ne souhaite résider à proximité d'un site souillé et que Montréal a besoin de développer son plein potentiel sur l'ensemble de son territoire. C'était désenclaver, mais surtout décontaminer l'est de Montréal, un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 24 mai 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visévoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin, Lena Marche et Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.